Donc Jacques chapitre 2, très belle épître, très pratique. On va lire les 13 premiers versets du chapitre 2. On y va. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Pour rappeler un petit peu ce que nous avons vu très rapidement dans cette épître de Jacques, au départ nous avons vu que ces chrétiens sont dans l'épreuve d'abord des fois que Dieu envoie, et là ils étaient en pleine persécution, mais aussi des fois dans l'épreuve que nous-mêmes nous créons au travers des tentations. Et on avait vu dimanche dernier que au travers de ces épreuves, parfois on peut vouloir se venger. Si quelqu'un vous fait du mal, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Je te pardonne, je t'aime. C'est pas ça, naturellement. Et Jacques le met en exergue dans cette épître et nous montre bien qu'il ne faut pas laisser la vengeance grandir, ni la colère, ni la haine, mais que comme Christ, il faut savoir répondre avec amour. Et ce n'est pas toujours évident. Et là, il va mettre encore plus en exergue un péché qui... Moi, j'ai l'impression qu'il est bien souvent discret, même dans l'Église ou pour moi-même, le favoritisme. Ce n'est pas quelque chose dont on parle tous les jours ou qu'on punit, on pourrait dire, entre guillemets. Et souvent, même, on se dit, c'est pas si grave que ça. On minimise tout simplement ce péché, alors que Jacques, là, est en train de nous montrer toute l'horreur de ce péché que de favoriser ou de faire l'exception de personne. Donc, dans un premier temps, il va nous montrer que ce favoritisme, il est complètement incompatible avec la foi. Si on cherche un peu la définition du favoritisme, ou
exception
de personne, c'est le mot grec parle de partialité. Je suis partial avec quelqu'un. C'est faire preuve aussi d'un parti pris. C'est en fait manquer réellement d'équité, de justice vis-à-vis de quelqu'un. Et croyez-moi, on l'est bien souvent, plus qu'on le croit en tout cas. C'est favoriser une personne aux dépens d'un autre. Toi, je t'aime bien, donc je te favorise. Toi, je t'aime pas, donc je te favoriserai jamais. Parce que ta tête ne revient pas, parce que je ne sais pas. Il y a plein de choses, des fois, dans le cœur de l'homme qui sont bizarres. Mais c'est traiter quelqu'un avec avantage par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est avoir de la considération pour des personnes et pas pour d'autres. Comme si les autres ne le méritaient peut-être pas de notre part. C'est considérer aussi des circonstances extérieures. C'est-à-dire, souvent, on fait du favoritisme par rapport à des gens qu'on voit de l'extérieur. Et si on connaissait des fois à l'intérieur, on serait certainement déçu. Et les apparences, évidemment, sont toujours là. Et on favorise les apparences plutôt que ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans le cœur. Le Seigneur agit autrement, lui. Il connaît déjà ce qu'il y a dans le cœur. Donc forcément, vos apparences ou nos apparences, il doit rigoler des fois quand on fait semblant d'être un gentil chrétien, parfait, parce que dimanche, on est tous parfaits. Et puis quand il nous voit dans la semaine, il doit moins rigoler des fois. Mais les apparences. Et Jacques révèle justement les dangers du favoritisme. Il dit, c'est devenir des juges injustes. C'est terrible quand on y réfléchit de ce qu'il est en train de dire là. Le mot juge, krites en grec, c'est celui qui juge, c'est celui qui arbitre en fait une situation. Mais là, il rajoute, c'est pas seulement un juge, au verset 4, mais avec des mauvaises pensées. Son jugement est mauvais, dès le départ. Il n'y aura même pas un jugement juste quelque part, cette façon de favoriser les gens le met en juge mauvais. Et on devient juge parfois du prochain. En Jean 7, 24, il est dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » C'est quoi la justice? Nous, on aime bien les apparences. La justice, ça demande de réfléchir, ça demande de connaître la parole. C'est un peu long, hein, c'est fatigant, la justice. Mais les apparences, c'est tellement plus simple. Il est beau, donc je le préfère à quelqu'un qui est moche. Il a de l'argent, je le préfère à quelqu'un qui est pauvre. Mais Jacques dit, c'est être un juge. C'est comme si on se mettait dans le tribunal, que cette personne à qui on défavorise des fois, ben on la juge tout simplement comme dans un tribunal. C'est grave, quelque part. Ils sont juges du prochain, mais le problème est que si on veut être juge du prochain, il faudrait qu'on soit parfait. Quelqu'un est parfait ici? Vous me rassurez quand vous ne levez pas la main, parce que sinon, c'est moi qui aurais été la honte. Hein. Personne n'est parfait, et dans notre justice, qu'est-ce qu'elle a, cette justice? C'est qu'elle est entachée par le péché. On voudrait être juste des fois, parfaitement juste avec quelqu'un, mais on sait très bien que notre nature est là. Et le problème, c'est que le péché ben, pousse vers un favoritisme, des fois, ou dans d'autres domaines, hein, évidemment. Donc on n'a pas à être juge du prochain. Notre juge, c'est Dieu. Et lui, il sera juste vis-à-vis de nous. Mais c'est triste de se dire qu'on puisse juger le prochain juste à son apparence. Prenez le temps de le connaître, déjà. Ça demande du temps de connaître quelqu'un. Et même quand vous le connaîtrez, vous ne connaîtrez peut-être pas tout le monde. Mais ne pas être juge. Et Jacques révèle justement ces jugements injustes dans la situation, dans le contexte. Hein. C'est des jugements par rapport à la situation sociale, hein, puisqu'il va dire, par exemple, hein, que si un riche rentrait, là, venez, hein, monsieur le président, on va vous asseoir devant pour que vous entendiez bien, etc. On va tout faire bien. Mais il faut savoir que des fois, les riches ne sont pas uniquement, et ça c'est en contraste avec le pauvre qui m'a dit tout à l'heure, les riches ne sont pas riches seulement parce qu'ils travaillent bien. Parce qu'il y a des riches qui sont très injustes parfois, qui trichent, qui arnaquent, ou parce qu'ils ont reçu un héritage. Ils n'ont rien fait pour être riches. Il n'y a aucun mérite à être riche quelque part. C'est ce qu'il dit Jacques. Hein. Tandis que le pauvre, lui, des fois est pauvre alors qu'il travaille comme un malade. Plus que le riche. Mais Dieu a permis qu'il soit dans cette situation, ce que la Bible nous dit aussi. Et ce n'est pas faute de paresse. Alors pourquoi faire une différence entre celui qui est riche mais qui n'a pas fait grand-chose pour l'obtenir, et quelqu'un qui est pauvre mais qui travaille comme un malade? C'est lui qu'il faudrait honorer plutôt, quelque part. Hein. Eh oui, mais on est injuste, et on préfère, ben, hein, quand ça brille, quand il y a de l'argent, c'est tellement agréable, on peut faire plein de choses avec. Hein. Et Jacques rappelle justement que ces pauvres-là, dans ce monde, et ces chrétiens à ce moment-là, ce sont ceux qui sont riches dans l'avenir. Vous savez que vous êtes milliardaire? Enfin, parlons, on va dire, au niveau humain. Mais nous sommes héritiers de Christ. Vous avez déjà vu votre prochaine demeure? Quand vous comparez votre appartement, votre maison, et que vous comparez la Nouvelle Jérusalem, excusez-moi la différence, mais il n'y a pas photo. Et en plus, il n'y a pas de loyer à payer, pas de taxes. C'est gratuit. Formidable, non? Ce que le Seigneur nous réserve quelque part. Donc, on est riches, nous les pauvres, dans ce monde, mais riches en Christ. Riche dans la foi et héritier, co-héritier de Christ pour l'avenir. Et si parfois je regarde un peu mon portefeuille et je me dis, je ne suis pas très riche, projetez-vous dans l'avenir. Hein? Là, il y a de quoi. Alors, on ne va pas au ciel pour la richesse, ce n'est pas ça évidemment, mais ça, c'est le cadeau en plus que le Seigneur nous fait dans sa grâce. Hein? Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans le ciel, c'est pas tout ça, c'est d'être avec le Seigneur évidemment. Mais Dieu bénit en plus. Et Jacques parle de ces jugements qui sont en fait des jugements tout simplement charnels. Hein. On choisit naturellement ce qui nous satisfait. C'est un réflexe dans notre vie. On va toujours vers ce qui me plaît. Et toutes nos actions sont souvent bien intéressées. Quand on regarde vraiment au fond de notre cœur, quand on est vraiment honnête, nos actions sont souvent intéressées. C'est dur d'être désintéressé. Hein. Alors au travail, par exemple, on cherche la faveur du patron parce qu'on voudrait une promotion. Éventuellement, elle est là, tout gentille, monsieur le patron, je vous aime, bien, bien. Hein, on cherche les faveurs du patron, à l'église parfois, on cherche les faveurs du pasteur. Ah ouais, comme ça, au moins, je l'ai dans la poche, et puis la prochaine fois, comme ça, tu te tais. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie, on est comme ça, on cherche toujours la faveur de celui qui est, j'aime pas le mot, mais au-dessus, ou de celui qui peut m'apporter quelque chose. On cherche pas la faveur d'un pauvre. C'est bizarre. Par contre, le favoritisme, on l'a dit, c'est un jugement peu équitable. Et le problème, c'est que le verdict que l'on rend, eh bien, quelque part, c'est basé sur des désirs tout simplement charnels. C'est ma chair qui parle et qui rend un verdict qui n'est absolument pas juste, devant Dieu en tout cas. Devant nous, il est toujours juste, mais pas devant Dieu. Donc Jacques nous apprend en premier temps, c'est que le favoritisme est un péché. On sait qu'on fait des fois du favoritisme, mais jamais on dit que c'est un péché. On le minimise, comme j'ai dit au début. C'est un péché que de faire du favoritisme. Et en plus, ce péché va construire des juges, on devient des juges, qui vont être injustes et qui sont pleinement inspirés par la chair. On n'est pas joli, des fois, à voir. Hein. Pas joli, joli. Mais c'est ça que de faire du favoritisme. La prochaine fois que vous favorisez quelqu'un par rapport à un autre, arrêtez-vous. Dites-vous, tiens, je suis devenu juge. J'ai revêtu la tunique, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Hein. Et là, je vais trancher, tout simplement, en tant que juge mauvais, et surtout avec tout ce qui est dans mon cœur, ma chair, qui n'est pas forcément bonne. Jacques nous apprend une deuxième chose par rapport au favoritisme, c'est qu'il est incompatible avec la vie d'Église. Vous imaginez si on vivait qu'avec du favoritisme dans l'Église ? Impossible. Et pourtant. Le favoritisme dans l'Église, je dis, parce que lui, il s'adresse à mes frères. Il est à un moment mes frères bien-aimés. Donc il s'adresse bien à des chrétiens et à des gens qui sont dans l'Église. Il parle donc aux chrétiens dans l'Église à ce moment-là, qui sont dans la difficulté, dans la diaspora, dans la persécution, et qui arrivent à se chamailler. Des fois, je n'arrive pas à comprendre. Quand tout va bien, je comprends que les chrétiens se chamaillent, c'est une chose. Mais quand on est dans la persécution, quand c'est difficile, quand on va mourir pour sa foi, pourquoi on n'est pas unis ? Ça prouve bien qu'on est encore des pécheurs, quelque part. Et on arrive, malgré les grandes difficultés, à se chamailler, à se disputer, à faire du favoritisme. C'est quand même triste quand on y réfléchit. Et donc Jacques va prendre un exemple, certainement qu'il a vu dans une église, hein, qui dit que quand une personne entre dans l'assemblée, à l'époque c'est le mot c'est synagogue, synagogue en grec, hein, donc on parle plutôt de synagogue peut-être, et il va montrer la réaction justement de ses chers frères et sœurs, on peut aussi les ajouter, face à un exemple. Et cet homme riche qui rentre là, et réaction, on voit cet homme avec un habit magnifique, hein, alors forcément on ne va pas le mettre derrière ou dans les toilettes, on va le mettre devant. Et c'est ce que faisaient les chrétiens à l'époque, face aux riches. On ne sait pas s'il était chrétien ou pas, mais ça ne change rien du tout. Ben, vient devant, traitement de faveur. Peut-être parce que dans ce traitement de faveur, on attend quelque chose aussi de lui plus tard. Hein. Vaut mieux être copain avec lui qu'en bise-bise, hein, on va dire. Donc vient devant, hein, vient, et peut-être que je vais avoir des avantages, peut-être que je vais avoir de l'argent, peut-être un peu de gloire. Moi qui suis pauvre, ou je ne sais pas. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses dans le cœur de l'homme à ce moment-là. C'est bien triste. Et puis, un autre exemple, c'est le pauvre qui arrive, misérablement vêtu. Ce n'est pas le clochard, parce que dans le contexte, le mot veut dire souillure, mais on parlerait peut-être du pauvre de l'époque. Alors, évidemment, ce n'est pas la pauvreté dont on connaît aujourd'hui. C'était vraiment une triste pauvreté, mais ce n'est pas le clochard non plus. C'est celui qui travaillait malgré tout, mais il faisait ce qu'il pouvait dans des circonstances vraiment difficiles. Mais le pauvre... Qu'est-ce qu'il peut m'apporter à moi ? Pas grand-chose. En tout cas, pas de l'argent ou une espèce de prestige quelque part. Donc pour moi, il n'a pas d'intérêt. Il ne va pas pouvoir servir mon orgueil ni servir mes intérêts. Donc toi, on va te mettre un peu de côté. M'intéresse pas. Hein, et viens t'asseoir au-dessous de mon marchepied. En fait, l'expression veut dire « je te mets sous mon pouvoir ». C'est grave ce qu'il est en train de dire là. « Je te mets sous mon pouvoir », comme si moi j'étais supérieur à toi et que tu dois m'obéir. L'expression vient d'une métaphore, hein, vous vous souvenez, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passait ? Ben, une fois que vous aviez gagné la victoire, ben, le conquérant plaçait le pied sur le cou, généralement, de celui qui était vaincu. Et ça lui prouvait que, ne faites pas ça, hein, ça fait mal au cou, ça lui prouvait que ben, t'étais vaincu. C'était vraiment une humiliation terrible. Mais faire ça à quelqu'un qui rentre dans l'Église, en tant que chrétien, ça se faisait, puisqu'il en parle. Est-ce que des fois, dans notre cœur, on ne le fait pas aussi ? Peut-être pas à ce point-là, mais on peut mépriser des gens parce qu'ils ont telle situation, parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas beaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Mais voilà l'attitude de chrétien face à certaines situations. Terrible quand on y pense. Puis, le favoritisme, hein, il n'en parle pas, mais on peut imaginer beaucoup. On peut favoriser celui qui est beau. Toujours plus agréable que quelqu'un qui est moche, qui pue. On est bien d'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le favoriser. On va favoriser celui qui est intelligent par rapport à celui qui ne l'est pas, peut-être. Mais voilà, tout le monde n'est pas intelligent. On va favoriser par rapport à la position sociale. Ah, toi, tu es directeur, donc oui, on va parler un peu plus avec toi que le pauvre ouvrier que tu es, hein, qui travaille je ne sais pas où. Par rapport à la race, même dans l'Église, c'est triste. Il n'y a qu'une seule terre, hein. Il n'y a qu'un seul peuple sur la terre. C'est les hommes qui ont inventé toutes ces nations et toutes ces frontières, mais il n'y a pas à discerner que je sois vert, bleu ou rose. Je ne donne pas les vraies couleurs comme ça, sauf si vous êtes vert, je suis désolé. Mais vous êtes vert de rage des fois. Mais il n'y a pas à discerner entre ça. On est chrétien. Un point, c'est tout. Ce n'est pas la couleur de ma peau ou ma race qui fait que je suis plus pécheur ou moins pécheur devant Christ. On est tous pareils. Il n'y a pas à discerner. Dommage que les églises aujourd'hui fassent du communautarisme. Parce que moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de personnes différentes. Mais voilà, c'est beau ce que le Seigneur fait. Puis on peut discerner, enfin, on veut ne pas favoriser ceux qui sont malades, les pauvres. C'est marrant parce que ces gens-là, ils ne sont jamais mis en avant dans l'Église. Ils ne sont pas les piliers non plus de l'Église. Bon, on ne peut pas toujours mettre des gens malades comme piliers dans l'Église, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on ne les oublie pas bien souvent? Ben si. Ça, c'est ce que le monde fait. C'est ce que vous rencontrez dans votre travail tous les jours. Le favoritisme vis-à-vis de ceux qui sont dans les hautes sphères, ceux qui ont le pouvoir et les moyens. Mais le problème, c'est que l'origine, c'est notre orgueil là-dedans et les intérêts personnels. Et si j'agis comme ça dans l'Église, eh ben, je dois me regarder dans le miroir et qu'est-ce que je vois? Orgueil, intérêt personnel. C'est ma faute, c'est mon péché. Et c'est vraiment un péché. Et ce qui est pire dans cette épître, et c'est ce que Jacques va dire, c'est que ces chrétiens vont faire du favoritisme avec des riches qui sont en train de les opprimer. Ils sont maso, ces gens, non? Quelque part, ils sont malades, c'est pas possible de vouloir favoriser celui qui est en train de me persécuter. Faut être fou, quelque part. C'est dire le cœur de l'homme comme il est tortueux, et des fois, il est prêt à n'importe quel sacrifice pour obtenir quelque chose. Alors, la statut social de ces chrétiens était rarement élevé, donc il y avait peu de riches parmi les chrétiens, et on l'a vu, les riches avilissaient les pauvres, ils les mettaient vraiment sous leur pouvoir, ils les jetaient en prison, etc. De toute façon, même si c'était juste ou pas juste, on s'en fiche. On fait ce qu'on veut, on a les moyens. Il faut savoir qu'en 46 après Jésus-Christ, il y avait aussi une terrible famine qui avait sévi. Donc, j'imagine déjà la pauvreté s'est ajoutée des conditions difficiles dans la persécution. Ça vous dit une vie d'église comme ça? Persécuté, dans la famine, avec pas beaucoup de travail. On est bien, Et on se plaint. Et on se plaint. Et eux persévéraient malgré tout. Donc, situation vraiment difficile. Et Jacques s'étonne que ces riches, qui finalement les oppriment tous les jours, eh bien, eux les honorent. Quelle capacité a l'homme à être hypocrite? Juste par intérêt personnel, pour notre ego, pour des faveurs, etc. Et dit le beau nom, on suppose que c'est le nom de chrétien ou de disciple, est outragé par les riches. Ce beau nom, si je me dis chrétien, je me dis petit disciple de Christ, petit Christ, c'est ça un peu la définition, ou disciple tout simplement de Christ. Et là, en faisant cela, j'outrage quelque part le nom de Christ. On a un beau nom. Alors on n'est peut-être pas riche, mais on est chrétien, et ça c'est formidable. Tout ce qui nous attend avec le Seigneur. Finalement, le favoritisme est complètement incompatible avec la vie d'Église, mais aussi avec notre foi en Christ. Ce n'est pas possible de faire du favoritisme si on se dit un chrétien authentique. Si la prochaine fois je suis tenté par cela, déjà il faut qu'on y pense, parce que souvent on n'y pense pas, mais tout de suite je me le reprendrai. Et je me souviens que c'est un péché et que Dieu n'approuve absolument pas cela. C'est pas toujours simple de ne pas faire de favoritisme non plus. C'est délicat, des fois quand vous êtes dans des situations, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Puis ça s'apprend surtout avec le temps et avec la lecture de la parole de Dieu et voir comment Dieu lui est juste. Comment des fois nous on est injuste et rectifier tout simplement notre façon de faire. Ça s'apprend, c'est pas impossible, sinon pourquoi il le demanderait le Seigneur? Vous n'avez jamais demandé quelque chose qui est impossible. Heureusement, sinon je serais perdu moi. Donc le chrétien ne fait pas de favoritisme, il veut être juste comme Dieu l'est avec les autres. Et surtout comme Dieu l'est avec moi. Parce qu'on aime bien être injuste avec les autres, et puis on va voir Dieu, t'as vu comme je suis juste, oh là là, qu'est-ce que je suis juste, moi, c'est terrible, les autres sont injustes. Dieu, il doit des fois nous regarder et dire, calme-toi, parce que t'es loin d'être juste. Si vraiment je mettais mon doigt sur cette justice, soi-disant, que tu mets en avant, eh bien tu serais vite calmé. Et c'est bien de se souvenir qu'on n'est pas juste. On essaye de l'être, évidemment, mais on est loin de l'être, parfaitement en tout cas. Troisième chose que Jacques dit, c'est que ce favoritisme est incompatible avec la loi royale. Et il va comparer justement favoritisme et loi royale. Il rappelle un peu les 10 commandements, le décalogue. Et cette loi royale, on la retrouve par exemple en Lévitique 19, il dit « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » C'est repris dans Luc 10, 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Soi-même, on s'aime souvent, pas toujours, mais beaucoup s'aiment plus. Et le problème, c'est qu'on n'aime pas l'autre comme on s'aime soi-même. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse à vous aussi. Mais là, le problème du favoritisme, c'est que ça n'accomplit pas la loi royale. Le mot royal, ça veut dire qu'on est assujetté à un roi. Ça veut dire que c'est être convenable ou digne d'un roi. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans cette loi royale, quelque part, ça nous rappelle que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes assujettis à Dieu. Pas « on suit Dieu quand on a envie ». On est esclave de Christ, nous dit la Bible. Donc assujetti à Dieu et qu'on est censé lui obéir et qu'il est notre roi et qu'on doit le respecter. Jacques veut dire donc que faire du favoritisme, c'est ne pas agir avec amour. On l'a dit, c'est un péché. Et là, il rajoute, c'est transgresser la loi de Dieu. Dieu demande des choses et le péché, c'est justement transgresser la loi de Dieu, la volonté pour nous. Pour le chrétien, en fait, il devrait avoir de l'amour pour son prochain. En faire le pilier de toutes les actions chrétiennes qu'il a. Et dans les moments de choix, peut-être délicats, quand le favoritisme vient là et nous tente, il faut s'arrêter et se souvenir de cette loi royale. Je dois aimer tout le monde. Moi, je dois vous aimer tous, comme vous êtes. Heureusement que vous êtes tous parfaits, ça va. C'est facile pour moi. Mais vous devez aussi m'aimer. Je sais que je ne suis pas toujours parfait, ça, excusez-moi. On doit apprendre à s'aimer, à se supporter les uns les autres. Et si on doit se supporter, ça veut dire qu'on a des... Vous ne savez pas ? Des défauts ? Hein ? Des imperfections encore ? Hein, vous pas ? C'est curieux ça. Hein ? Moi j'en ai, je suis désolé, je suis le seul alors aujourd'hui, hein, mais bon, pardonne-moi. Mais on doit apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Et ce qui est formidable, c'est que quand on voit l'Église grandir, on voit aussi les gens changer, progresser. Hein ? C'est le travail de sanctification que le Seigneur fait dans la vie de chacun. C'est ça qui est formidable. Donc quand des fois ça ne va pas avec quelqu'un, je sais que Dieu va commencer à travailler dans cette personne pour l'amener là où il m'a amené autrefois. Puis moi, je vais être amené, etc. Donc, je peux aimer cette personne parce que finalement, elle vit la même chose que moi. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'apprendre à changer dans ma vie. Au ciel, on sera parfait. On s'ennuiera. Hein. On ne se disputera plus. Plus de querelles. Non, tu vois ? Ça vous dit ? Il me regarde. Mais oui, ça me dit. Moi, j'aimerais plus me disputer avec personne, moi, ou de voir des disputes, évidemment. Comment mettre en œuvre cette loi royale ? Ben, il faut reconnaître déjà son péché. Et particulièrement le péché du favoritisme. Il va à l'encontre de l'amour du prochain, nous dit Jacques, parce qu'il pousse à l'orgueil, parce qu'il pousse au jugement. Il fait des différences entre les hommes, on l'a dit, au niveau social, physique, racial, parfois. Ça, c'est pas Dieu du tout. Dieu ne fait pas ces distinctions-là. La gravité du péché, il faut la reconnaître aussi, hein, pas dire simplement « Ah, oh, j'ai fait du favoritisme, pardon Seigneur, c'est pas grave. » Parce que des fois, on règle la situation comme cela. C'est grave. C'est grave, ça va contre la loi, c'est ne pas aimer son prochain, c'est pécher contre Dieu, tout simplement. Et tant que je ne reconnais pas ça, je ne comprends pas l'horreur, justement, du favoritisme. On devient transgresseur de la loi, nous dit Jacques, mais des fois, on ne s'en rend pas du tout compte. Et on continue tranquillement son chemin. Mais un jour, il ne faut pas croire que Dieu ne reviendra pas là-dessus. Si on ne demande pas pardon, tribunal de Christ, on va remettre les choses à l'heure. Eh oui. Alors, on ne pourra pas demander pardon pour tout ce qu'on a fait, parce que je crois que des fois on pêche sans le savoir même. Hein, mais dans la mesure où on est sincère devant le Seigneur, il nous pardonne évidemment. Et Jacques met en exergue surtout le fait que le péché, là, c'est l'aspect numéraire qu'il est en train d'évoquer. Ce n'est pas l'intensité du péché qui est important devant Dieu, c'est plutôt l'aspect numéraire. Un seul péché condamne. Alors oui, si vous commettez un meurtre, il y aura des conséquences différentes. Culpabilité, la prison, etc. Si vous avez des mauvaises pensées, vous dites c'est moins grave. C'est pas vrai. Devant Dieu, ça reste un péché. Ça sépare de Dieu. Un péché reste un péché. Il n'y a pas des péchés mignons ou des péchés, je ne sais pas, comme certains disent. Un péché reste un péché. La première fois que j'ai péché, et déjà j'ai la nature pécheresse, mais la première fois que j'ai péché, je suis séparé de Dieu. Quoi que j'ai fait. Mais ça, on l'oublie souvent. On se dit que celui qui a tué, c'est plus grave que moi et mauvaise pensée ou mon favoritisme. Non, c'est la même chose, dit Jacques. Exactement la même chose. Je suis séparé de Dieu. Dieu n'est pas content quand je fais du favoritisme. Et on a tous besoin des fois de se repentir dans ce domaine-là, parce qu'on fait tous du favoritisme. Ce n'est pas qu'à l'Église, hein. On peut le faire aussi au travail, dans la famille, les frères et les sœurs. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire du favoritisme. Et quand je me rends compte que je le fais, ben, il faut tout simplement demander pardon au Seigneur et apprendre à changer, apprendre à regarder l'autre comme Dieu le voit. C'est ça le plus important. Hein, et ça, c'est aussi une piste peut-être pour nous aimer, nous aider à aimer l'autre. Oui, il est comme il est, mais comment Dieu le regarde en ce moment ? Il est peut-être dans le péché, mais Dieu l'aime. Dieu a tout fait pour qu'un jour il puisse être sauvé. Si j'arrive à regarder cette personne de cette manière-là, je vais apprendre à aimer mon ennemi aussi. Mais bon, on a notre justice et nous, on veut régler les choses plus vite. Donc, Jacques nous dit que le favoritisme refuse tout simplement l'amour du prochain et il l'identifie tout simplement au péché. Peut-être des fois, on se dit que, qu'est-ce que je sais aimer dans l'Église hein? Je ne sais pas que vous le dites jamais parce que là, vous mentez à vous-même. Hein, parce que... Ou alors, je vais prier pour que Dieu vous envoie quelques personnes que vous allez devoir aimer. D'abord, ce n'est pas toujours simple de les aimer. Hein, mais quand je fais un bilan de moi-même, de temps en temps, et c'est bien de le faire assez régulièrement, savoir où j'en suis dans ce domaine du favoritisme. Est-ce que je l'ai seulement remarqué? Ça, c'est la question. Est-ce que je l'ai seulement remarqué? Maintenant, normalement, oui, puisqu'on en a parlé ce matin. Mais prenons le temps de réfléchir, et pourquoi pas, ben, si c'est l'occasion, ben, de demander pardon, si on a fait du favoritisme à quelqu'un ou à une autre personne, ça serait bien. Parce que ça fait souvent du mal aussi à l'autre personne, n'oublions pas. C'est un péché devant Dieu, mais c'est un péché aussi contre la personne. Et on doit régler les deux, normalement. Et puis, une quatrième chose que Jacques nous apprend, c'est que le favoritisme est incompatible avec la miséricorde. Complètement différent. Il dit d'agir en se souvenant qu'on sera jugé par une loi de liberté, au verset 12. En fait, il dit à ces chrétiens maintenant que vous avez compris peut-être que vous êtes dans un péché, maintenant il va falloir agir autrement, et en particulier selon les critères de Dieu. Hein, jusqu'à présent, vous agissiez selon les critères de votre chair ou à cause des conditions. Maintenant, il faut agir selon Dieu. Et il dit parlez, parlez maintenant. Ne parlez pas en vous vantant de votre foi tout en faisant du favoritisme. Vous parlez de votre foi, mais démontrez-la en pratique. On verra ça un peu plus tard dans Jacques. Montrez que vous êtes vraiment un chrétien dans vos actes, pas juste dans le nom ou dans le fait que oh, je suis un chrétien. Hein. Non, il s'agit d'agir. Et c'est comme ça qu'on voit un vrai chrétien, quand il aime le prochain réellement. Si on a de la haine pour le prochain, c'est peut-être chrétien, mais c'est misérable. C'est triste, quelque part. Parce que le Seigneur ne veut pas que ça soit comme ça. Alors, je sais qu'il y a des situations, des fois, difficiles. Il faut du temps, on est bien d'accord. Mais à un moment, il faut que ça quitte notre cœur. L'amertume hein, et la haine pour l'autre. Et surtout, si c'est vis-à-vis d'un chrétien, c'est bien triste. Il dit, parlez. Parlez comme Dieu parlerait, ou selon les critères de Dieu. Agissez. Ça veut dire, mettez en pratique l'amour oral. Parce qu'on peut dire à un frère, je t'aime, et s'en fiche complètement. Et il y en a qui le font. Hein. Des fois, il y en a qui dit qu'il est dans la difficulté, et il dit, je vais prier pour toi. J'ai besoin d'argent. Oui, je vais prier pour toi. Ça ne sert à rien de prier. Le Seigneur veut qu'on mette les choses en pratique, pas simplement de dire des choses. C'est facile de prier. Hein. Ça coûte de donner un petit peu de ce que nous avons en plus pour cette personne qui est dans la difficulté. Il ne s'agit pas de le faire à tout le monde non plus, on est d'accord. Hein. Il y a des situations et des contextes. Mais bon, c'est mettre en pratique l'amour que j'ai pour les autres, soi-disant, et le chrétien que je prétends être. Il dit ne pas oublier notre salut. Avant d'aller voir l'autre, rappelons-nous d'où nous venons. Parce qu'en faisant du favoritisme, on se dit qu'on est supérieur à l'autre. Comme si moi, j'étais pardonné plus que l'autre, ou que j'ai fait moins de péchés, que c'était moins grave et tout ça. Souvenons-nous de la miséricorde que Dieu nous a fait. Plusieurs versets que je vais lire, dans Romains 2, 11, il est dit « Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. » Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Éphésiens 6, 9, il est dit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. » Dieu ne fait pas de favoritisme, et à nous de ne pas le faire. 2 Chroniques 19, 7, hein, « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Dieu ne connaît en aucun cas le favoritisme. On est tous pareils devant lui. Il nous aime de la même manière. Il sait qu'on vient tous de notre nature pécheresse, qu'on était tous perdus à cause de notre péché. Et quand on s'approche de lui, on s'approche tous de la même manière. C'est formidable, quelque part, quand on y réfléchit, par rapport à ce monde qui n'agit pas du tout comme ça, et moi-même, évidemment. Mais il s'agit là tout simplement d'imiter Christ, comme Christ a fait du Père la référence, et il a agi comme le Père, quand il était sur terre, à nous déjà de comprendre qui est le Père, comment il agit, mais ensuite de pratiquer aussi cette miséricorde vis-à-vis du prochain. Dieu ne fait pas de favoritisme concernant la grâce non plus. Tout le monde peut approcher, quel que soit votre péché, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, le Seigneur pardonne celui qui se repent. Quelle chance! Je ne sais pas si on y réfléchit vraiment. Moi, je suis venu de loin, et bien Dieu aurait pu dire à un moment, ouais, mais là, non, tu étais trop loin, toi, hein? Pas de grâce. ben, si, il m'a fait grâce. Hein. Il fait grâce aussi à celui qui n'était pas très loin, qui était pécheur, tout simplement. Mais il fait grâce à quiconque se repent. Et nous devons agir exactement comme lui. Et Jacques nous dit, nous serons jugés par une loi de liberté. Alors si on se souvient dans le chapitre 1, verset 25, il parlait déjà de cette loi de liberté, c'est tout simplement la parole de Dieu qui nous affranchit du péché et de la loi servile. En fait, il ne veut pas qu'on soit des juges, il veut qu'on soit des gens libres, tout simplement, vis-à-vis des autres. C'est quand même mieux que d'être un juge. Mais nous aussi, on est jugés par la parole et on sera jugés par le Seigneur un jour au tribunal de Christ. Mais on est jugé aujourd'hui parce que nous, nous savons que nous ne devons pas faire de favoritisme si nous connaissons la parole de Dieu. Maintenant, vous la connaissez. Désolé, je vous ai coincé. Mais vous le connaissez maintenant. Et parce que je le sais, je ne dois plus le faire. C'est bien de connaître la parole de Dieu en long et en large, mais je dois aussi la mettre en pratique parce que je serai jugé par cette parole aussi. Et cette parole de Dieu, on l'a dit, c'est la norme divine. C'est ça ma norme. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les responsables de l'Église. C'est la parole de Dieu qui est la norme divine. Et c'est à elle que je dois me confronter. Déjà, il faut que je la connaisse, évidemment. Et c'est là où je vais tirer les exemples de Dieu et les mettre en pratique. Verset 13, il dit « La miséricorde triomphe du jugement ». J'aime ce verset. C'est tellement vrai. Vous savez, j'ai vu beaucoup de situations en tant que pasteur et dans des situations où beaucoup de gens vont aller juger la personne parce qu'elle a commis un adultère, parce qu'elle a commis quelque chose, parce que c'est naturel chez nous. Quand vous pratiquez la miséricorde, au lieu de condamner cette personne et de la rendre plus triste, on reconnaît le péché, mais on fait miséricorde. Et on accompagne cette personne dans la difficulté. Et souvent, ces gens-là s'en sortent. C'est ça qui est formidable. Mais en tant que chrétien, souvent, j'ai eu des juges. Oh, pas grand-chose, des fois. On préfère juger. Tu as fait un péché. Oh, c'est grave. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Tu vas mourir. Mais Jésus, quand on s'approche de lui, chaque fois qu'on a péché, qu'est-ce qu'il nous fait? Il boude. Si on est sincère devant lui, il me fait miséricorde. Alors ça, c'est bien pour moi, parce que moi, je suis bon, je suis gentil, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Mais pour l'autre, non, ça ne va pas, pas de miséricorde. Si l'Église vivait comme cela, oh la belle Église qui aurait là. Oh la belle Église. C'est notre Église, évidemment. Je parle des autres Églises, on est bien d'accord. Non, la miséricorde triomphe du jugement, et ça, il faut vraiment le méditer dans notre cœur. D'abord, c'est ne pas prendre à la légère le jugement de Dieu, quand je dis ça aussi. Parce qu'il dit, Dieu va juger sévèrement ceux qui n'aiment pas leur prochain. Sévèrement. Alors des fois, on se dit, je m'en fiche de ne pas aimer mon prochain, mais Dieu, il regarde et il attend quelque chose de nous. Et je serai jugé par rapport à l'amour que j'ai eu pour mon prochain, et je serai puni. Ça, on l'oublie souvent. Apprenons à aimer le prochain. Je sens que je vais me faire aimer de plus en plus maintenant. C'est bien. Dieu jugera aussi sévèrement celui qui favorise, parce que c'est un péché. Et le Seigneur veut qu'on se repente de nos péchés. Donc il tient compte chaque fois qu'on fait du favoritisme, tout simplement parce que ce chrétien n'agit pas comme Dieu agirait dans certaines circonstances. La miséricorde triomphe du jugement. On veut juger les autres. N'oublions pas que nous aussi, on va être jugés à un moment. Hélas, vaut mieux pas juger les autres. On arrivera un peu mieux, on va dire, devant le Seigneur. Ce ne sera pas parfait, ça c'est sûr, mais c'est déjà mieux. Et Jacques nous dit que cette miséricorde triomphe du jugement parce que Jésus n'a pas fait de favoritisme, il l'a démontré sur la terre. On l'a dit, il nous a tous aimés, quel que soit notre passé, quelle que soit notre situation aussi aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois je suis à fond, des fois je suis complètement déprimé, mais Dieu m'aime quand même. Jésus m'aime quand même. Il sait la situation dans laquelle je suis, et ce n'est pas à moi en tant que chrétien d'aller juger cette personne-là ou de faire du favoritisme parce que lui, il est plus spirituel que l'autre. Être spirituel, c'est que de l'apparence. Encore une fois, c'est de l'apparence. Il faut voir comment on est à l'intérieur, vraiment devant Dieu. Faire du favoritisme dans l'Église, c'est agir à l'encontre de Jésus et tout simplement de son exemple. Si on est chrétien, on veut faire comme lui, on veut lui ressembler. Et plus j'avance, plus je devrais lui ressembler. Et la miséricorde est plus forte que le jugement. Comme j'ai dit dans les exemples que j'ai vécus, quand on fait miséricorde à quelqu'un, c'est tellement beau de voir cette personne demander pardon à Dieu et d'être restaurée. C'est tellement plus joli que juger, foutre dehors. C'est ridicule. Et c'est pareil pour moi chaque fois. Je sais pas, des fois on se fait pardonner par le Seigneur, mais on ne se rend pas compte de tout l'amour que Dieu met à ce moment-là en nous, de la miséricorde qu'il m'accorde, le pardon, etc. Des fois on demande pardon et on s'en va vite voir la télé. Il faudrait peut-être se souvenir aussi de tout ce qui se passe à ce moment-là et la chance qu'on a de pouvoir être pardonné par le Seigneur. Et vous savez, cette miséricorde, Jésus l'a démontré à la croix. Là où tout le monde le haïssait, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vous pardonne. Vous voulez que je vous crucifie une fois ? Déjà même pas ça, mais je vous embêtez et vous êtes prêts à pardonner. Alors on n'est pas Jésus, je le sais, mais il nous demande à lui ressembler, à devenir son disciple et à faire comme lui. Et c'est un gros travail à faire dans notre cœur. Le favoritisme empêche donc l'amour et aussi la miséricorde. Le favoritisme empêche tout simplement d'être comme Dieu, comme Jésus-Christ. Et ce n'est pas la volonté du Père pour chacun d'entre nous. Pour terminer, la foi et l'amour, on l'a vu, sont incompatibles avec le favoritisme, tout simplement parce qu'on ne peut pas aimer en péchant contre l'autre. Pas possible. Ça ne marche pas ensemble. À nous de nous observer, à nous de prendre le temps des fois de dire, bah, tiens, je favorise tel ou tel, et peut-être s'arrêter là et se dire, top, hein, là je suis en train de faire un péché. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent, mais maintenant je dois en tenir compte dans ma vie. Et si c'est un péché, je peux aussi demander pardon au Seigneur, tout simplement. Et on va demander plusieurs fois pardon au Seigneur pour tout le reste de notre vie. Je suis désolé de vous le dire, hein. C'est pas très positif, mais je suis désolé. Jésus ne nous appelle pas à nous juger les uns les autres, mais à nous aimer. Oui, tout ne me plaît pas chez le voisin, ok, mais Seigneur, aide-moi à l'aimer, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que naturellement, on n'y arrive pas. Aide-moi à aimer celui que je ne comprends peut-être pas, celui qui ne me ressemble pas, différent, celui qui m'embête tout le temps, il ne le fait peut-être pas exprès, mais apprends-moi à aimer mon prochain plutôt que d'être un juge. Là, il y a du boulot aussi. Hein. Aimer. On aime ceux qui sont proches, ceux avec les affinités, hein. On sait aimer, mais tout le monde, non. Parce que des fois, on ne se connaît pas, c'est bien dommage. Le Seigneur nous a démontré cet amour impartial sur la croix. Hein. Et ça, c'est toujours l'exemple pour moi quand je suis dans une situation. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi ? Comment il a réagi ? Quel est l'exemple qu'il me donne ? Et là, tout s'arrête d'un seul coup, normalement. Et j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie, je dis, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais on essaie en tout cas de faire tout. Mais c'est bien de s'arrêter devant la croix de temps en temps avant d'agir, de juger ou quoi que ce soit, et de souvenir, et moi, devant Christ, comment il me voit, où je viens, d'où je viens. La miséricorde doit être la ligne de conduite de tous les chrétiens, même si on est persécuté. Même si on est persécuté, puisque le contexte de Jacques, c'est dans la persécution. Et là où les chrétiens qui voulaient se venger peut-être de ces persécuteurs, Jacques leur dit, et le Seigneur le dit aux Syriens, aimez-les, ayez de la miséricorde. Et je disais ce matin par rapport à l'histoire de l'Église, et pendant 3 siècles, l'Église a été persécutée, 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 personne ne s'est vengé, et l'Église a été vainqueur à la fin, par rapport à cet empire romain qui finalement a dû le reconnaître. C'est fou quand on y réfléchit. Alors oui, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Vous savez, quand vous faites miséricorde à quelqu'un, c'est pas avec le sourire, souvent. Ça fait mal, des fois, dans le cœur. C'est douloureux. Mais au bout, on est vainqueur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Des fois, hein, on veut taper dessus parce qu'on croit qu'on est plus fort, mais le faible, des fois, est beaucoup plus fort. Et Christ, qui semblait être tellement faible, un jour va arriver sur cette terre, va poser le pied sur la terre et va leur dire « Maintenant, c'est moi le roi. » Et il n'y a personne qui va broncher. En attendant, on se moque de lui gentiment, ou on dit qu'il n'existe pas, mais c'est celui qui semble être souvent faible qui est finalement le plus fort, parce qu'il fait miséricorde. Alors, favorisons l'amour et la miséricorde, on est d'accord ? Vous allez m'aimer maintenant ? Et avoir la miséricorde, et en tout cela, parce que souvent on veut glorifier Dieu, hein, on a envie de glorifier, adorer Dieu et tout ça, par le chant, par plein de choses, mais... Avoir de l'amour, avoir de la miséricorde, c'est aussi adorer Dieu, c'est aussi le glorifier. Et chaque fois qu'on agit comme cela, le Père est heureux. Et moi, j'aime quand le Père est heureux. On va prier. Seigneur, merci pour cet épître de Jacques qui est très pratique et qui rentre dans des domaines peut-être intimes de notre vie ou peut-être même qu'on n'a même pas réalisé encore. Et pardon pour ces favoritismes que nous avons parfois à l'égard des uns et des autres. Pardon pour ces jugements aussi si faciles vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Apprends-nous à ne plus être des juges avec ces mauvaises pensées, mais apprends-nous à avoir de la miséricorde. Apprends-nous à aimer le prochain. Tu sais combien c'est difficile dans notre cœur d'être juste et d'aimer celui qu'on ne comprend pas, celui qui est différent. Mais Seigneur, si tu nous demandes, c'est que tu veux aussi transformer notre cœur, travailler ce cœur pour arriver à aimer même son ennemi. Quel travail, quel boulot. Mais Seigneur, que nous puissions commencer aujourd'hui à nous laisser faire par toi et par ton esprit. apprends-nous dans cette église aussi à nous aimer les uns les autres, à ne jamais faire de favoritisme ou à demander pardon si c'est le cas. Apprends-nous à faire miséricorde avec l'un et l'autre parce que nous sommes loin d'être parfaits. Apprends-nous à nous regarder par rapport à ta croix, Seigneur, et réaliser combien nous sommes vraiment misérables devant tout ton amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ce domaine et que tout cela soit fait pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.